Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour à vous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ravis de vous retrouver pour le MAC de l'IMO, deuxième partie. Alors vous avez loupé la première heure, mais c'est pas grave, vous pouvez la retrouver en podcast en intégralité ou simplement si vous souhaitez écouter une chronique ou une interview en particulier, c'est également possible et c'est sur notre site radio.imo, sur notre appli également du même nom, Radio IMO. Et puis si vous êtes plutôt agrégateur de podcast, eh bien c'est possible aussi, sachez-le. Et on est ravis de vous recevoir ce matin pour notre grand témoin du jour, c'est Pierre Rotus. Rebonjour Pierre Rotus.
Rebonjour.
Vous avez déjà démarré le débat hein, pendant les infos. Vous êtes engagé,
on
vous n'arrêtez jamais. Ça a papoté. Ça s'est bien échauffé. Mais pas échauffé dans le sens.
Oui, bah on a compris.
Vous êtes, voilà. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes
on
là.
On défend les propriétaires ce matin.
Christophe Bordet est
qui
là
est propriétaire.
Qui est propriétaire.
Et qui en a marre.
Eh ben voilà, c'est dit. Hein. Il va bien nous le remonter, le Pierre Rotus, c'est parfait.
Mais on est bien entouré. On va parler de l'actualité du secteur, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire avec
oui,
le nouveau DPE, etc.
On a 10 000 sujets à aborder, on va commencer tout de suite. Avant Pierre Rotus, je voudrais que vous nous rappeliez ce qu'est l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Qu'est-ce qu'on y fait, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse?
Alors, l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, c'est une fédération qui est centenaire, qui est plus que centenaire. Elle a été créée en 1893 et qui répondait à l'époque à la problématique des grands aménagements dans les villes. Notamment, on connaît les aménagements haussmanniens à Paris, etc. Mais pour la gestion des déchets, l'évacuation des eaux, etc. Donc, il y a des propriétaires d'immeubles à l'époque qui s'étaient organisés pour discuter avec les pouvoirs locaux pour organiser les choses. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Il y a eu une instance européenne qui s'est créée en 1923 à l'initiative de la France, qui s'appelle l'UIPI. Et puis, aujourd'hui, on retrouve une centaine de chambres partout sur les territoires qui sont implantées dans chaque département et qui répondent aux problématiques des propriétaires qui soient bailleurs ou les propriétaires occupants, copropriétaires la plupart du temps, parce que les problématiques sont de plus en plus complexes, notamment liées à la rénovation énergétique, ce dont on parlait pendant la pause. Effectivement, beaucoup de questions viennent. Il y a des aides qui sont proposées, donc les gens se renseignent, s'interrogent. Et puis, il y a aussi du côté des bailleurs, les relations avec le locataire, des problématiques fiscales, de déclaration de revenus, etc. Donc nous, on accompagne les propriétaires et on fait en sorte qu'ils soient heureux et pas mélancoliques vis-à-vis de la réglementation et de ce qui leur tombe dessus.
Pourtant, ça veut dire que n'importe quel propriétaire peut s'adresser à l'UNPI pour une question, un conseil.
Exactement, ils viennent nous voir. Alors il y a une cotisation, on ne vit que de ça. On vit des cotisations et quelques sponsors locaux pour des événements, mais c'est la cotisation qui est en moyenne de 70 à 100 euros selon les territoires. Les chambres sont libres de décider leur cotisation au niveau local. Et moyennant cette cotisation, il y a accès à beaucoup de choses gratuites, des consultations avec des notaires, avec des huissiers de justice, des avocats qui viennent faire des permanences et parfois faire même des sessions de formation. On forme les gens, on leur explique comment ça marche, comment on fait un état des lieux pour pas se tromper, comment on remplit le bail, quel type de bail il faut utiliser, si possible ceux édités par l'UNPI, parce qu'ils sont bien complets, ils défendent bien les propriétaires. Il y a toutes les clauses qui sont dedans, ce qui n'est pas le cas du bail type loi Allure qu'on peut trouver sur Internet. Faire très attention à cela. Et donc, voilà, on les accompagne dans leur démarche, on les défend quand il faut, et puis quand ça passe au contentieux, on leur dit allez voir un professionnel juridique du domaine, un avocat ou un notaire.
J'avais une question, Pierre Rotus, parce qu'on voit avec les confinements, la Covid-19, que les Français réorientent largement leur épargne vers justement l'achat d'un appartement avec balcon, avec terrasse, d'une maison avec jardin, en dehors des métropoles, ou en tout cas des grandes villes, comme Paris intramuros, on fuit, on part à l'extérieur, etc. Vous ressentez déjà que le nombre de propriétaires en France est en train de grimper, entre guillemets, à cause ou grâce finalement à cette pandémie?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de diaspora, notamment parisienne. Il y en a déjà qui partent en plus grande couronne, en Île-de-France, qui cherchent le pavillon à acheter ou à louer, ouais, avec un jardin de l'extérieur, de quoi respirer, etc. Parce que quand on est confiné effectivement à Paris, dans des surfaces qui sont de plus en plus petites, parce que les prix sont tels que les familles ont du mal à se loger dans des grands appartements comme c'était le cas il y a peut-être 10 ou 20 ans. Et puis, il y a aussi un phénomène de gens qui s'en vont vers les métropoles ou les villes moyenne plus. Moi, je suis de Reims, par exemple. Je vois à Reims beaucoup de Parisiens, de gens qui vivaient même en Île-de-France, tout simplement, qui viennent s'installer à Reims. Ils ont un meilleur pouvoir d'achat immobilier. C'est une ville dynamique, extrêmement bien administrée, dont la taxe foncière n'explose pas comme ailleurs.
Ah là, le champenois, il est là. Hein. Et en plus, il a fait un peu de politique.
Cette ville est accueillante, il y a le TGV. Moi, je suis venu ce matin en TGV à Paris, j'y habite, je fais les allers-retours tous les jours quand ce n'est pas le télétravail. Et donc, il y a de quoi se loger. Effectivement, il y a ce phénomène de diaspora, oui, effectivement, vers ces villes. En revanche, vers la campagne, la vraie campagne, j'en viens aussi, je peux en parler. J'y crois pas trop, en tout cas sur le long terme, parce que quand il s'agira de tailler les haies, tondre la pelouse et avoir le coq qui chante, peut-être que tout le monde n'appréciera pas cela.
Vous pensez que c'est un phénomène qui va durer dans le temps ou bien que c'est complètement passager par rapport à la situation que l'on vit? Parce que, par exemple, il y avait un sondage IFOP pour CAFPI cette semaine, qui était très intéressant, où on voit que 28% des personnes interrogées au global veulent mettre leur argent, cet argent qui n'a pas été dépensé depuis un an, on est à 121 milliards ou quelque chose comme ça, pour l'instant peut-être 160 milliards à la fin de l'année, qui iraient justement dans le logement pour un certain nombre, 28%, et même c'est pire que ça. Pour les primo-accédants, on atteint 93% de gens qui veulent investir dans l'immobilier, donc c'est quand même énorme et rassurant, j'imagine, pour vous.
Je ne sais plus quel président de grande entreprise de l'immobilier disait « les Français sont nés avec une brique dans le ventre ». Et je suis assez d'accord avec ça. On est très attaché à la pierre, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou certains pays latins. En France, on aime la pierre, on aime investir dans l'immobilier pour louer un appartement. C'est pour ça que c'est un investissement très populaire et accessible. Et puis, on aime devenir propriétaire de sa résidence principale parce qu'on se dit que lorsqu'on loue, après tout, on jette un peu par les fenêtres. Puis on ne peut surtout pas bien aménager comme on voudrait. On ne peut pas faire les travaux qu'on veut, etc. Parce qu'on se dit, c'est une location, ça ne sert à rien. Ce qui n'est pas toujours vrai, d'ailleurs. Mais effectivement, les Français veulent investir dans leur résidence principale. À Paris ou en Île-de-France, dans les villes où l'immobilier est un peu plus élevé, c'est plus compliqué. Et donc, ils s'orientent vers d'autres typologies d'investissement. Et le marché de la résidence secondaire se porte très bien, par exemple, d'un certain nombre de Français, de gens qui se disent je continue à habiter en ville, mais j'ai aussi un petit pied à terre pour 80 000, 100 000 euros. Vous allez en Corrèze, une région qui me tient à cœur. Vous trouvez des choses à rénover, évidemment.
J'ai bien connu la Corrèze.
Eh ben moi aussi.
Bon, paix à son âme, Jacques Chirac,
un
évidemment,
Jacques
qui nous
Chirac
a quittés il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est intéressant ce que dit Pierre, parce que c'est vrai que beaucoup de Français veulent investir et devenir propriétaires. Et en même temps, il y a tout un tas d'effets ciseaux que l'on va continuer d'évoquer. Moi, il y en a un que je voudrais évoquer tout de suite. C'est une information que nous allons développer sur Radio Immo aujourd'hui et sur Radio Territoria. C'est la ville de Bordeaux qui annonce en exclusivité sur nos radios que le nombre de logements neufs, la construction de logements neufs, va diminuer, passant de 4 000, grosso modo, à 3 500 par an. Est-ce que vous comprenez, Pierre Autus, ces villes écolos aujourd'hui qui décident de supprimer de la construction de logements neufs?
Si je me place d'un point de vue des finances publiques, je me dis... ils ont fait le pari que le neuf ne leur rapporterait pas suffisamment et donc ils vont faire flamber l'ancien, ils vont récupérer de l'argent sur les transactions, sur le droit de mutation, et puis les taxes foncières vont être relevées à fond la caisse. D'un point de vue gestion et bon gestionnaire de maire, on aime beaucoup les maires bâtisseurs. Je peux reparler de Reims où il y a des choses qui se construisent parce qu'il y a une demande, donc il faut développer l'offre. Bordeaux est une ville extrêmement attractive. C'est une ville qui a besoin de construction, d'aménagement, qui a besoin peut-être de se concentrer dans certains endroits. Et de bloquer la construction neuve me paraît pas la bonne solution du tout. Sauf à faire, ça va faire bizarre dans ma bouche, mais des ghettos de riches dans des centres de villes comme Bordeaux, mais d'autres, où les gens auront les moyens de payer cher de l'habitat. Sauf à aller nationaliser le logement et mettre des prix au ras des pâquerettes. Mais je ne trouve pas ça très malin et très intelligent, mais je crois que le
maire... Mais c'est un peu ce qui commence à se passer avec l'achat par les villes de ce qui est foncier et la vente uniquement de l'appartement qui est au-dessus.
Oui.
Enfin, pour moi, il y a un peu du communisme dans tout ça, dire les choses clairement.
Ça existe à Paris, voir la pérennité du dispositif, mais moi, je suis assez sceptique. 5 000 euros, quand on regarde de plus près, ce n'est pas 5 000 euros du mètre carré, déjà 5 000 5000 euros, c'est assez élevé. C'est plutôt 6 ou 7000. Et puis, c'est un peu une escroquerie, entre guillemets. En tout cas, on ne devient pas propriétaire. Il ne faut pas vendre de la propriété privée à ces gens qui investissent dans ce type de dispositif d'investissement, ou enfin d'immeuble. Donc, pour revenir à Bordeaux, effectivement, c'est un des grands enjeux de la métropolisation. C'est un phénomène qui va au-delà de nos frontières, qui est européen et mondial. Les gens veulent quand même habiter là où il y a du service. Et pour le moment, les services sont dans les villes. Et les villes moyennes essaient de se structurer de telle sorte à ce qu'il y ait des services. Mais d'ici qu'il y ait une vraie déconcentration, comme on va pouvoir le vivre peut-être à Paris, puisque à Paris, c'est ce qu'on vit. Il y a une déconcentration, puisque les gens s'en vont. Et c'est quelque chose auquel on appelait, nous, déconcentration de l'activité économique, pour qu'elle se répartisse mieux sur notre territoire, et donc que les gens, qu'on puisse respirer et que les gens puissent habiter ailleurs qu'à Paris pour un tas de métiers qui ne nécessitent pas forcément la présence à Paris. Le télétravail, le développement du TGV, alors les amis avionneurs vont peut-être pas apprécier, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait le TGV à Toulouse, maintenant le TGV se développe partout, on peut se promener partout en France très rapidement.
Bordeaux-Toulouse, il y a du travail encore.
Il y a encore un peu de temps. Oui.
C'est un peu long, effectivement. Mais le Premier ministre s'en charge, visiblement, selon les dernières informations.
Paris-Bordeaux, qui a été terminée en grande vitesse, a permis... développement de Bordeaux dont on parlait, évidemment.
Bordeaux, c'est 15%, le chiffre est très précis, 15% de Parisiens qui sont venus acheter à Bordeaux.
C'est quoi maintenant? C'est 2h30? Un Paris-Bordeaux?
Je crois même que c'est 2h.
Deux heures. Effectivement,
c'est formidable.
C'est moins que certaines personnes qui habitent en Grande Couronne ou un tout petit
bien
peu
sûr.
Autour de Paris, bien sûr.
Et le calcul est rapidement fait. Quand on paye son abonnement TGV très très cher, effectivement, c'est cher, mais en même temps, c'est le TGV. Et par rapport au coût de la vie, à l'immobilier, etc., et de qualité de vie, de cadre de vie, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que ça se compense largement. Après, il faut aussi penser à tous ces territoires qui se vident et qui se sont vidés, en tout cas, ces 15-20 dernières années, avec notamment la réforme des régions, où on a reconcentré sur d'autres capitales, etc. Il y a des villes que je connais un peu chez moi, mais Châlons-Champagne a dû retrousser ses manches, et son maire, Benoît Paru, qu'on connaît bien dans l'immobilier, a dû retrousser les manches pour pouvoir continuer à avoir une ville attractive dans laquelle les gens veulent habiter. Il y a des ménages, des familles, des enfants, des écoles, etc. Il faut faire des choix, donc c'est très compliqué. Mais il y a tout un tas d'autres villes. Je pense à l'Auvergne, le président de l'UNPI est auvergnat. Beaucoup de choses se vident vers Lyon, se déplacent vers Lyon, etc. Et les Auvergnats se sentent un peu... Alors, il y a toujours la guéguerre entre les Auvergnats et Rhône-Alpes. Mais il y a un tas de villes en France qui méritent d'être plus attractive et qu'il faut connecter et auxquelles il faut mettre des infrastructures.
Par exemple, Limoges, en ce moment, ça cartonne. Il y a plein de Français qui viennent habiter à Limoges.
C'est une formidable ville, Limoges.
Voilà. Mais c'est encourageant.
C'est plutôt bien placé. Après, la connexion Limoges en train,
très compliqué.
C'est pas terrible.
3 heures depuis Bordeaux.
Il y a l'hyperloop d'Elon Musk qui,
ah, d'accord,
qui va arriver 40 minutes, Limoges-Paris. C'est la promesse,
si seulement, en tout cas. Si seulement.
Il y a des lignes dans cette diagonale du vide qu'il faut absolument développer, pas forcément en TGV, mais rien que des trains qui vont vite. Je sais que, par exemple, le train qui part en Normandie met plus de temps qu'il y a quasiment 100 ans. C'est incroyable. Et donc là, le TGV ne doit pas lui aussi aspirer tous ces investissements-là.
Mais après, vous êtes d'accord aussi de dire que ça va ensemble. Il y a une corrélation, moins de gens, moins de gens dans le train, et donc moins les lignes sont développées.
Oui, mais si on redonne de l'attractivité, les gens vont revenir.
Alors, il y aura plus de monde dans le train.
Alors, peut-être pas le TGV, mais effectivement, de connecter ces gares TGV avec des trains rapides où les gens peuvent se déplacer, parce que maintenant, avec le télétravail, on peut venir travailler à Paris 2 jours et le reste de la semaine rester chez soi. C'est pas des allers-retours quotidiens.
C'est pas valable pour tout le monde non plus. Hein,
et c'est pas
pour tous les secteurs.
Et c'est pas valable pour tout le monde et pour tous les secteurs, mais ça permet quand même, sur tout un tas de typologies de métiers, de déconcentrer un peu la ville. Genre, je sais que c'est moins à la mode parce qu'on dit qu'il faut concentrer justement les villes pour loger les gens. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut quand même essayer de répartir un peu mieux sur notre territoire.
Est-ce qu'on pourra vraiment, vous pensez, empêcher des zones blanches comme ça, des zones vides? Est-ce qu'on peut arriver à un territoire qui est également
plus homogène,
occupé?
Quoi.
Moi, je pense, mais ça nécessite un travail de très long terme. notamment via l'immobilier. Parce que l'immobilier, on l'imagine toujours comme un dispositif d'investissement spéculatoire, dans lequel on fait des plus-values. On oublie de dire que c'est extrêmement taxé. C'est le plus taxé dans le monde, je pense, l'immobilier français. On cherche aussi à taxer l'immobilier des résidences principales, notamment à Bordeaux. Je me souviens de cette conférence où le président Macron était à l'époque des Gilets jaunes, qui disait pourquoi pas. Enfin, il avait été un peu évasif sur la question de taxer les résidences principales sur les plus-values que les gens feraient. Oui, mais cette plus-value leur sert à se reloger, à avoir une pièce en plus, et ils se relogent en général dans le même marché. Et si le marché est augmenté, ils rachètent au prix. Donc en fait, la plus-value, elle n'est pas vraiment existante. Donc d'avoir des territoires mieux répartis et s'appuyer sur des pôles plus également répartis sur le territoire, on y est forcément favorable. Il y a des tonnes de territoires plus ruraux en France qui méritent d'être plus attractifs, qui ont eu des heures de gloire pendant des années, qui se sont un peu désindustrialisés. C'est aussi un peu les raisons pour lesquelles les gens ont un peu fui. Et puis petit à petit, les services ont disparu. On parle beaucoup des maternités, les services postaux, etc. etc. Mais aujourd'hui, tout ça mérite, je pense, d'être mieux organisé autour de l'immobilier, avec l'attractivité des investisseurs, parce que les Français qui investissent dans l'immobilier sont des petits porteurs, c'est des ménages particuliers, et qui viennent injecter de l'argent dans l'économie, qui est très productif derrière, sur la mobilité, sur l'emploi, et sur le cadre de vie des gens, évidemment, dans la rénovation du patrimoine.
On sait tous que la planète est en danger, des décisions sont prises dans plusieurs pays, dont la France, pour protéger l'environnement. Et ça passe, par exemple, par tout ce travail autour du bâtiment, du bâti, que ce soit le neuf d'ailleurs ou l'ancien. Il y a, par exemple, sur les passoires thermiques, il y a le nouveau DPE qui arrive. C'est pour le mois de juillet 2021. DPE opposable. Pour rappel, l'acquéreur pourra se retourner contre le vendeur ou le bailleur s'il estime que l'étiquette attribuée en fait au logement n'est pas la bonne. Est-ce que tout ça finalement, ça donne pas l'impression que on est en train, pardon d'utiliser ce terme, d'emmerder ceux qui veulent devenir propriétaires ou les propriétaires?
Alors oui, si on veut paraphraser...
J'utilise ce terme à dessein, évidemment.
On veut paraphraser Pompidou, effectivement, il faut arrêter d'emmerder les Français. Mais
voilà.
Globalement, on a dans une balance, il y a deux plateaux, et j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a un plateau qui est un peu plus haut que l'autre. On a, sur l'émotion, sur une convention citoyenne tirée au sort, on ne sait pas bien comment, avec des gens formés par on ne sait pas bien qui, sorti une loi... en quatrième vitesse, alors même qu'une précédente loi avait été votée l'année qui précédait sur le même sujet, qui avait fait quand même bien consensus, on est avancé, on a cranté effectivement la sortie des logements classés F et G, puis E en 2034, ce qui est...
F et G 2028.
Voilà.
Et eux, 2034.
Voilà, mais
là, on arrive à 50% des logements.
Je ne sais plus exactement le pourcentage, mais il y a une énorme partie du parc. C'est énorme. Et on est inquiet, nous, d'une sorte d'organisation, d'une obsolescence programmée du parc ancien. Ce qui ne nous convient pas, parce que les propriétaires, ce sont leurs immeubles. Et ils veulent bien rénover à condition qu'on les aide à le faire. Je prends souvent cet exemple de, même pour un propriétaire occupant, un ménage qui avait acheté un logement dans une, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, dans un truc des années 70, où il y a plein de ponts thermiques, c'est pas bien isolé, etc. À l'époque, c'était le nec plus ultra, c'était le haut de gamme de ce qui se construisait. Tout le monde était très heureux d'investir dans ces résidences. Aujourd'hui, on explique à ces mêmes personnes qui habitent le même logement que, en fait, ils sont has-been, que leur logement, il est F ou il est G. D'ailleurs, on ne sait pas bien qui va être F ou G, puisque le thermomètre change, vous en parliez, du DPE au mois de juillet. Donc, il y a une petite inquiétude. Nous, on a interrogé nos adhérents. Il y a 50% des gens qui sont inquiets ou très inquiets du sujet de la rénovation énergétique, parce qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre, déjà. Ils ne savent pas comment faire. Souvent, ils sont en copropriété. Ils disent, oui, mais moi, je ne suis pas seul à décider. Donc, si je peux pas, si on m'empêche de faire, comment je fais pour louer si la copropriété n'accepte pas les travaux qui me permettent de sortir de F et G. Bon. Après, il faut quand même reconnaître qu'il y a un objectif clair qui est indispensable d'amélioration du parc. On appelle depuis, nous, des décennies à l'UNPI à ce que le parc soit entretenu, qu'on nous donne les moyens d'entretenir et qu'on crée un environnement global fiscales et réglementaires qui facilitent l'investissement et qui permettent de pérenniser le parc pour l'entretenir. Et la rénovation énergétique est un moyen d'entretenir le parc et la qualité des logements.
Et de faire des économies au bout du bout.
Et au bout du bout, faire des économies. Alors, je parlais avec Michaël Nogal, qui est le rapporteur de la loi à l'Assemblée.
Que l'on connaît bien sur Radio Immo, puisque
vous connaissez bien.
Il a son émission, oui.
Et donc, on parlait de la valeur verte, mais elle n'est pas vraie partout, cette valeur verte. Notamment à Paris. Il n'y a pas de valeur verte dans une zone très tendue comme Paris. Il y a des endroits où, si vous n'avez pas rénové nickel le logement, vous ne le louez pas, vous ne le vendez pas. Ou alors à bas prix. Donc, il faut que les marchés puissent s'adapter à ces objectifs. Mais cranter, alors déjà, la classe énergétique E, donc atteindre D dans l'ancien, je mets au défi de mettre tout le parc à D. Hein. Techniquement, hein, c'est pas qu'une question financière de volonté de quoi que ce soit. Techniquement, alors est-ce qu'il va falloir détruire des immeubles? C'est une autre question.
Non, mais par exemple, des immeubles haussmanniens, vous habitez au dernier étage d'un immeuble haussmannien avec une vue formidable sur Paris, la Tour Eiffel, etc. Vous êtes au dernier étage, vous êtes forcément mal classé.
Bien sûr, et vous allez
donc
pas...
Donc c'est l'enfer pour le propriétaire de l'appartement.
Et vous avez peu de capacité d'isolation, si ce n'est perdre beaucoup de mètres carrés. Et on sait que le mètre carré à Paris est élevé. Et il faut un principe de réalité, c'est que les gens ne sont pas complètement bêtes. Et ils ne se disent pas, ah bah oui, non seulement j'en ai pour 20 000 de travaux, 30 000 de travaux, et en plus je perds 30 000 en mètres carrés parce que j'ai perdu 3 mètres carrés. Ce qui est peu en province, mais,
ah oui, mais à Paris, c'est beaucoup.
Et donc il y a
non, mais concrètement, il faut, si on fait tout ça... Il faut que le gouvernement mette plus d'argent sur la table, très clairement, non ?
Et au-delà de ça, c'est-à-dire que les propriétaires ne sont pas des gens qui sont dans leur principe d'aller quémander de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est que déjà que ça arrête d'augmenter les taxes, ça arrête de créer des taxes, et qu'on leur crée un environnement favorable, qu'ils soient bailleurs ou occupants. C'est-à-dire que si pendant les 10 dernières années, la taxe foncière a explosé, elle a pris 35% en 10 ans, la taxe foncière, et je lisais un papier dans Le Point ou je ne sais plus quel canard, hier, disant il faut créer, pour rembourser la dette Covid, une nouvelle taxe foncière senior. Attendez, arrêtez, la CSG est déjà passée de 15,5 à 17,2 il y a à peine 3 ans. Et donc, on a des enjeux globaux de dire aux gens, on arrête, on plafonne. Et il y a le double effet qui se coule qui est hyper dangereux à mon sens, et il faut qu'il y ait une règle qui se mette en place là-dessus, c'est que lorsque vous rénovez votre logement, vous en améliorez la qualité. Et donc, vous allez devoir le déclarer auprès des services fiscaux locaux. Et donc, potentiellement, votre taxe foncière, qui a déjà bien flambé, alors pas partout, hein, mais dans beaucoup de territoires, et de toute façon, en moyenne nationale, c'est 35% en 10 ans, eh bien, votre logement va être taxé encore davantage. Donc, non seulement vous aurez fait la rénovation énergétique, mais on va vous dire, ah bah oui, mais il est mieux, votre logement. Comme il est mieux, moi, crac, je prends. Je pense qu'il faut encadrer, plafonner, il faut faire en sorte que dans la réforme des valeurs locatives, des bases cadastrales, les collectivités locales ne puissent pas remettre encore une couche de taxation suite à une rénovation thermique, justement pour encourager, il faudrait leur dire, ça change pas.
On va faire une petite pause dans le débat, Pierrotus, si vous le voulez bien, pour écouter un premier témoignage. Alors avant qu'on l'écoute, je vous laisse nous présenter Michel Dubois, qu'on va entendre tout de suite en quelques mots. Et qui c'est ?
Alors Michel Dubois, c'est le secrétaire général de la fédération UNPI, qui est pour moi un des piliers de la fédération. J'apprends beaucoup auprès de lui. Et ils m'aident beaucoup au quotidien dans les diverses actions qu'on mène. Et on a eu de gros projets même de restructuration interne de la fédération. Il est moins penché sur le versant politique, même s'il a de bonnes idées et qu'il est très calé sur ce domaine. Mais lui, c'est un opérationnel, c'est un doueur, comme il dit. Et on peut vraiment compter sur Michel Dubois quand on l'a dans son équipe.
Ça, c'est pour ce que vous pensez de lui. On va maintenant entendre ce qu'il pense de vous. On revient juste après. Michel Dubois. Michel Dubois, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez avec Pierrotus.
Oui.
Alors, depuis combien de temps travaillez-vous avec lui? Et puis, comment ça se passe?
Voilà. Écoutez, je connais Pierrotus depuis 4-5 ans. Et je travaille régulièrement avec lui depuis 3 ans. Depuis que j'ai pris des responsabilités de secrétaire général de la Fédération UNPI, pour lequel il est le directeur général.
Et alors, comment est Pierre au travail ?
Alors, Pierre au travail, ben d'abord, Pierre est très agréable. C'est quelqu'un qui est très agréable au point de vue travail, notamment au point de vue travail à l'équipe. Et c'est un garçon avec lequel il est toujours agréable de converser et de travailler. Je peux vous expliquer pourquoi. Parce que simplement, c'est un garçon simple en termes de rapports humains, et c'est un garçon qui connaît parfaitement ses dossiers, et donc il est intéressant de discuter, de dialoguer, et surtout d'échanger avec lui, et c'est ce que je fais depuis 3 ans.
D'accord. Voilà. Alors on a une tradition hein, dans le MAC de Limo. Pierre est avec nous en plateau, il vous écoute. Ah. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?
J'aimerais lui dire que j'aimerais qu'il continue dans la façon de travailler avec aussi bien ses collaborateurs que ses alter ego au niveau du conseil d'administration de la fédération. En fait, Pierre, s'il m'écoute, j'apprécie en lui le caractère sérieux, le caractère solide, la loyauté envers ses positions, et j'aime bien que des gens qui travaillent avec des positions solides, bien défendues et loyalement défendues. Et c'est le cas de Pierre. Donc, ce que je souhaite dire à Pierre, c'est que il continue à travailler de la même manière, toujours à parfaire ses compétences, qu'il fait de façon tout à fait régulière depuis que je le connais, et puis d'affirmer chaque jour, toujours, une autorité vis-à-vis des gens avec lesquels il travaille, et c'est cette autorité qui fait de lui le garçon agréable à travailler, parce qu'au moins il a des positions solides et des positions professionnelles solides qu'il est agréable de discuter avec lui. Voilà.
Voilà pour le témoignage de
Les
Michel.
Les fleurs tombent du ciel.
On va peut-être aller travailler avec Pierre, parce que ça a l'air bien
envie,
quand même.
Hein. Ouais. Ça a l'air très sympa de bosser avec vous.
Avec grand plaisir. La porte est grande ouverte à l'UNPI pour s'engager pour défendre la propriété privée immobilière en France.
Bon, il doit bien y avoir des petits accros de temps en temps. Vous
avec
devez
Michel
bien vous énerver. Ou...
Avec Michel, jamais.
Oui, vous ne pouvez pas être constamment de bonne humeur, constamment au top.
Non, je me fâche quand même assez rarement. Mais j'ai une équipe de très grande qualité qui s'est d'ailleurs renouvelée assez largement pendant le confinement, ce qui était assez, assez sportif de renouveler une équipe quand il y a le confinement, le télétravail, les rencontrer les gens à distance, etc. C'était pas évident, mais on a une très très bonne équipe. Les élus de la fédération qui sont les présidents de chambre, ou en tout cas qui émanent des chambres, Michel Dubois était engagé à Boulogne puis maintenant à Paris, en plus de ses fonctions nationales. Donc non, ça se passe très très bien. On est un milieu associatif, faut pas l'oublier. Le côté politique, moi j'aime bien qu'on puisse converser et sans se fâcher, même si on n'est pas d'accord. Par exemple, avec Michael Noguel, on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais ça n'empêche pas qu'on s'apprécie, qu'on discute gentiment, on se croise dans plein de réunions. Je l'ai croisé récemment sur un plateau télé. Donc voilà, c'est important de savoir ne pas être d'accord avec quelqu'un sans pour autant être fâché avec lui. C'est-à-dire que ne pas rentrer dans des conditions personnelles quand on n'est pas d'accord sur un sujet, ça enrichit le débat quand même.
Eh bien, on va continuer dans le thème hein, d'enrichir le débat et de ne jamais s'arrêter avec le deuxième titre hein, de votre playlist. C'est un grand classique encore également. C'est signé Queen, ça s'appelle Don't Stop Me Now. Avant qu'on l'écoute, quelques mots sur ce choix.
J'aime beaucoup Queen. J'ai regardé récemment le film Rhapsody, Bohemian Rhapsody.
Qui vous a plu ?
Qui m'a plu, oui, alors c'est pas vraiment un film, c'est plus un documentaire en fait, enfin, c'est l'histoire, et donc c'est intéressant de connaître mieux ce personnage, et le titre, parce qu'il fallait que j'en choisisse une de Queen, Don't Stop Me Now, m'a fait m'arrêter sur le titre justement, pour dire que je m'arrêterai pas.
Allez, on n'arrête pas Pierrotus, on n'arrête pas le Mac de Limo, Queen, Don't Stop Me Now. I'm gonna have myself a real good time, I feel alive.
Good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
De retour en studio pour cette deuxième partie du Mac de l'Imo consacrée à notre grand témoin ce matin. C'est Pierre Autus, le directeur de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Alors on va parler de comment vous êtes arrivé ici quand même à l'UNPI. Ici à l'UNPI, pas sur le plateau de Radio Imo, même si c'est quand même un peu lié.
En TGV, il est venu en TGV.
Je suis venu en TGV et en vélo.
Vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Avant, Christophe voulait aborder un sujet avec vous, c'est celui qui concerne eh bien, la réouverture imminente ou presque des commerces.
C'est l'actualité, vous ferez quoi le 19 mai? Vous serez en terrasse?
J'irai boire un picon bière en terrasse.
Ouais. Un picon bière, carrément.
Bon, bah, il d'accord. A bon goût, moi je valide.
Ouais, bah, je valide aussi, allez. Attention quand même, hein. Alcool avec prudence, tout
avec
ça.
Modération, hein. Avec évidemment. Modération,
évidemment. Vous avez vu que j'ai pas fait de pub pour le champagne, c'est fait.
Oui, ça y est, c'est fait. Il est fort hein, quand même. Bon, Pierre Autus, non, plus sérieusement, au niveau des commerces, puisque la réouverture est actée, hein, visiblement dans ce plan en quatre étapes qui est prévu par le président de la République, qui est très développé dans la presse quotidienne régionale ce matin, et le président de la République qui va s'exprimer en fin de journée. Le 19 mai, donc réouverture des commerces, réouverture des terrasses de cafés et de restaurants. On le sait, hein, nos amis cafetiers et restaurateurs sont en difficulté. Globalement, il était temps.
Il était temps parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la restauration à Reims et qui tournent en rond et qui en ont marre. Ils veulent travailler, c'est-à-dire que les aides, etc., on s'organise différemment, le chômage partiel pour les salariés, très bien, mais ils ont envie d'y aller. Ils ont envie de se remettre au travail, de revoir les clients, de pouvoir refaire des beaux dîners, des beaux apéros et revoir les amis. Pour les commerces en général, on est très content que ça rouvre parce que eux aussi sont dans une attente de réouverture. On est heureux que la période s'est quand même globalement plutôt bien passée. Ça a été très tendu au premier confinement, ça a été très difficile. Je pense que Bercy et Bruno Le Maire a été à la hauteur des attentes et des enjeux. En novembre aussi. On poursuit un certain nombre de dialogues sur le commerce et sa version plus large sur les résidences de tourisme. On a beaucoup d'actions sur ces résidences de tourisme et les professionnels du tourisme, notamment en montagne, qui ont beaucoup souffert aussi. Il faut que l'économie reparte. On ne peut pas rester sous perfusion trop longtemps. Il faut que ça reparte. Et donc, on est très heureux d'avoir passé ce cap.
Le président semble évoquer un deuxième plan de relance ou une continuité, en tout cas, au plan de relance. Il a raison, il faut aller plus loin, il faut remettre un coup là.
Il a raison et peut-être que Joe Biden l'a un peu inspiré aux États-Unis. Sleepy Joe n'était pas si endormi que cela.
Exactement.
Espérons qu'il y en ait une partie aussi pour les propriétaires dans le cadre notamment de la rénovation énergétique parce que le compte n'y est pas aujourd'hui et il faut évidemment injecter un certain nombre d'aides pour les propriétaires.
Très vite, il y aura de la casse dans les commerces ou pas à la fin? Quoi qu'il arrive.
Il y aura forcément de la casse.
En Espagne, par exemple, on parle de 40% des commerces qui pourraient.
Oui, certains vont parler de manière plus positive de restructuration du commerce en France.
C'est pour faire joli, ça, oui.
Les crises sont toujours l'occasion de refaire et de repartir de zéro. Mais il va y avoir de la casse. Il y a des commerces qui vont fermer. Il y a des commerces qui étaient déjà un peu mal en point. Et donc, ça a fini de les couler, malheureusement. Mais je pense qu'on va repartir et espérons que dans les 5 prochaines années ou 2025, à cet horizon que l'opinion l'a annoncé, qu'on soit avec une forte croissance et que tout le monde puisse refaire du business et que le business fonctionne à nouveau.
Rapidement, pour finir sur ce sujet, vous sentez une inquiétude de leur côté ou pas? Parce que ce qu'on vit là, on l'a quand même déjà vécu il y a un an, ou à peu près, c'était en mai, le 11 mai 2020. Tout le monde a réouvert, tout le monde a recommencé à bouger, tout le monde est reparti. Et puis finalement, 4 mois après, on repartait en confinement.
C'est vrai que le stop and go qu'on a connu là, ces derniers mois, là, pendant la période, était très difficile à vivre. Espérons, mais pour tout, pour l'événementiel, pour l'activité, puis pour la vie, pour qu'on puisse enfin se sentir
libre.
La
différence, c'est qu'il y a la vaccination, quoi. Donc, si on va jusqu'au bout...
Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que la vaccination va être efficace, etc.? On est encore quand même dans l'incertitude. On est face à une crise sanitaire qu'on ne fait que gérer a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça peut reflamber d'un coup en septembre prochain,
si, etc. Tout le monde ne sera pas vacciné.
Espérons que la vaccination puisse suivre son cours et qu'on ait enfin les doses nécessaires pour vacciner.
Vous êtes majeure et vaccinée, vous, Johanna? Oui.
Oui.
Ouais, mais d'accord.
Mais pas pour le Covid.
Alors, il faut avoir plus de 50 ans apparemment aujourd'hui.
Ou
40
quoi,
à Cannes.
55 ?
55 ans peut-être.
55 ans,
55
oui.
55 ans, ouais. Il faut aller à Cannes, il paraît qu'à 40 ans on peut se faire vacciner.
Il n'y a pas qu'à Cannes, mais bon.
Il faut aller au Stade de
chacun
France.
Chacun se débrouille, visiblement.
Ouais.
Alors, Pierrotus, je le disais, on va voir un peu ce qui vous a amené dans l'immobilier. Je suppose que quand vous étiez enfant, ce n'était pas tout à fait une passion. Vous aussi, déjà ?
Il y a peut-être des Legos hein, pour construire.
Alors, oui, non, déjà. Peut-être pas l'immobilier, mais en tout cas la propriété. C'est quelque chose qui m'a toujours importé.
Ça vous vient d'où ?
Et bon, je le dis rétrospectivement. Moi, mon père était agriculteur et donc propriétaire terrien. Et l'importance de la terre, de la propriété, de la transmission, de l'entretien, du patrimoine, etc., était déjà un peu dans certaines de mes valeurs. Et puis, j'ai fait des études juridiques. Au départ, je voulais être notaire. Et puis finalement, j'ai un peu divergé vers un peu le monde politique qui m'a ramené vers l'immobilier. Et effectivement, je suis comme tous les Français. Je suis né avec une brique dans le ventre, je pense.
Et vous revenez à vos racines. Vous nous avez parlé de Chalon-sur-Saône, je crois, tout à l'heure.
Non, de Chalon-Champagne.
De Chalon-Champagne,
pardon. De Chalon-Champagne, qui est une ville qui est à côté de Reims, dans laquelle je vis.
Donc vous n'êtes pas très loin, effectivement, vous êtes resté dans la région.
Je suis resté dans la région, tout
à fait. Vous l'avez quitté à un moment ou pas du tout ?
Oui, bah, comme tout le monde, je suis venu un peu faire mes études à Paris. J'ai habité un petit peu à Paris, mais j'ai un peu voyagé. Mais effectivement, je suis pas un très grand globe-trotteur en France, en tout cas. Je suis resté Île-de-France et dans la Marne.
Ouais, vivre à Paris, ça vous a jamais tenté ?
Ben, y avait une équation financière, hein, comme tout le monde. Et moi, j'ai grandi à la campagne. J'avais du mal à me dire qu'avec, alors aujourd'hui, 3 enfants, j'allais m'installer dans un appartement de petite taille, peut-être en location, parce que pas de capacité forcément à être propriétaire occupant. Avec le TGV, la question, elle a vite été répondue, comme
c'est
dans le monde de l'immobilier.
Mais c'est le seul point qui vous a fait rester finalement dans la région de Reims. Vous vous êtes pas dit que finalement vous aviez envie de rester là-bas ou de profiter d'un cadre un peu plus vert ?
Si, mais en fait, j'ai les deux avantages. J'ai les avantages d'être propriétaire, formidable, dans une association comme la mienne, de ma maison à Reims, et puis de profiter de la majestuosité de Paris, quand bien même il y a quelques difficultés en ce moment, et de propreté et d'organisation, on va dire, et de déplacement. Mais Paris est une ville extraordinaire, qui a une activité extraordinaire. Mon métier fait que je peux difficilement travailler ailleurs qu'à Paris. Et puis, j'ai tous les avantages de la campagne, entre guillemets, puisque j'y suis très rapidement le week-end en sortant de Reims, avec ma famille et mes enfants. Mais peut-être qu'un jour, je changerai de ville.
C'est marrant, en vous écoutant, Pierrotus, sur tout un tas de sujets depuis tout à l'heure, on sent que vous, qui avez été un petit peu dans la politique à certains moments de votre vie, la politique n'est jamais très loin. Là, vous venez de faire une réflexion sur la propreté qui n'est pas au rendez-vous, par exemple, à Paris. C'est un sujet qui est très politique.
Oui.
Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça vous démange ? Est-ce que vous dites un jour, je vais véritablement aller en politique ? Me présenter aux élections ?
Peut-être. C'est pas impossible. En revanche, je trouve que la politique est un mastodonte qui vous dévore. Et je préfère être dans le back-office pour le moment que dans le front-office, parce que c'est quelque chose qui prend quasiment tout votre temps si vous le faites bien. J'ai une haute estime et une haute vision de ce qu'est la politique. J'ai énormément de respect pour les gens qui s'engagent en politique, que ce soit simplement au sein d'un conseil municipal jusqu'à les fonctions les plus éminentes. Mais je pense que pour le moment, j'ai de jeunes enfants. Je veux profiter de ma famille. Et l'équilibre qu'on a trouvé avec mon épouse sur ce sujet me paraît assez sain pour le moment. Et si je fais de la politique, il faudra déjà qu'il y ait un beau projet derrière. Je ne vais pas faire de la politique politicienne. Et effectivement que je puisse y consacrer beaucoup de temps et que mes enfants n'en aient pas besoin plus qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que les petits-enfants ont quand même besoin d'énormément d'attention et de présence.
Mmh. Ils ont quel âge, vos enfants ?
Alors, mes enfants ont 7, 3 et 4 ans et demi.
Comment ils s'appellent ?
Alors, j'ai Louise, l'aînée, Charles et Stanislas, le troisième.
Ça doit occuper quand même beaucoup entre l'UNPI et cette famille où il y a quand même 3 enfants.
Ça occupe beaucoup. J'ai la chance et la très grande chance de pouvoir m'appuyer sur mon épouse qui s'occupe beaucoup de mes enfants, de nos enfants, et qui est sur place. Et c'est vrai que j'essaie d'être présent au maximum, mais c'est vrai que l'UNPI et ma fonction font que c'est aussi très prenant, qu'il y a beaucoup de travail, et que je rentre pas toujours le soir à 17h pour chercher mes enfants à l'école, mais globalement, j'essaie de m'investir au maximum. Je sais pas si c'est moderne de dire ça, mais en tout cas, j'ai envie d'avoir une relation particulière et privilégiée avec tous mes enfants et aussi avec mon épouse, parce que c'est important aussi en couple de se voir, de faire des choses ensemble, et de passer du temps et pas simplement de se donner rendez-vous dans la salle de bain au moment où on se brosse les dents.
Alors du coup, on fait quoi pour passer le temps chez les Otus le week-end? On voyage, c'est plein d'activités sportives, on reste à la maison.
Là, pour voyager en ce moment, c'est quand même compliqué.
Alors en ce moment, on s'adapte.
On peut aller voir les grands-parents.
Ouais,
on peut aller voir les grands-parents.
Oui.
Quoique,
attention quand même.
Quoique, paraît-il.
S'ils sont vaccinés ou pas.
Oui. Mais alors, voilà, les grands-parents sont assez jeunes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on s'adapte. On essaie de faire des activités de plein air. On essaie de sortir avec les beaux jours. On essaie d'aller en forêt. Dans la limite des 10 km, enfin bon, on ne calcule pas au mètre près, mais voilà, mes enfants font du sport, évidemment, ma fille fait du tennis, par exemple. Mais effectivement, quelque chose qui manque, c'est quand même tout le domaine culturel. Mes enfants commencent un peu à grandir, à leur âge, ils s'intéressent beaucoup aux choses, ils posent beaucoup de questions. J'avais emmené ma fille au Louvre en 2019. J'aurais aimé le faire en 2020 avec mon premier fils. Ça les intéresse particulièrement et que ça rouvre. C'est une formidable bonne nouvelle aussi pour les enfants qui pâtissent quand même un petit peu de la situation. À l'école, c'est pas facile. Il faut mettre le masque. Parfois, le professeur est absent. Il n'est pas remplacé tout de suite parce que voilà, c'est pas évident non plus à gérer pour les académies. Il est temps que...
Mais vous sentez qu'il y a des conséquences psychologiques sur, par exemple, vos enfants par rapport à ce qui se passe, la compréhension de ce qui se passe depuis plus d'un an maintenant?
Oui, parce qu'à leur âge, je me souciais pas des virus. Je savais même pas ce que c'était qu'un virus. Donc c'est vrai que, alors c'est sûr, on n'est pas en guerre, c'est pas...
Le président a parlé d'une guerre.
C'est pas la Deuxième Guerre mondiale, faut pas exagérer, même chez les jeunes, etc. Mais c'est vrai que même des ados aujourd'hui, je parlais avec ma cousine de cela hier, des ados qui sont au collège aujourd'hui, qui sont toujours pas rentrés, là ils font tout en distanciel, c'est terrible, ils tournent en rond, ils s'ennuient, il faut les occuper, pas les mettre devant les écrans parce que sinon c'est cata. Donc c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge pour les parents aujourd'hui, hein, d'avoir des enfants qui sont à l'école, qu'il faut accompagner, être en télétravail, faire le travail à la maison, etc. C'est très très difficile, très très difficile, et j'en profite là pour tirer un grand coup de chapeau à mon épouse, parce que grâce à elle, mes enfants vivent cette crise et cette période de manière beaucoup plus heureuse qu'un certain nombre d'autres enfants qui n'ont pas cette chance.
On va poursuivre sur ce volet familial et amical. On va écouter un premier témoignage de l'un de vos amis. Il s'appelle Géraud Delvolvé, je vais y arriver. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement?
Alors Géraud, c'est mon homologue à l'UNIS, qui est un syndicat qu'on connaît bien ici à Radio Imo. Et c'est l'un des premiers, quand je suis arrivé à l'UNPI, c'est l'un des premiers avec qui j'ai pris un café, je me souviens, devant le Sénat. Et j'ai trouvé le personnage extraordinaire. On a tout de suite beaucoup ri. Et au-delà des relations professionnelles, je crois que maintenant, nous sommes vraiment amis.
On va voir ça. On va écouter Géraud tout de suite. On ne sait jamais.
Bonjour Géraud Delvolvé.
Bonjour Bérénice Deville.
Alors vous êtes amené à travailler avec Pierre Otus, si je ne m'abuse.
Oui, régulièrement, les délégués généraux de l'UNPI et moi de l'UNIS, et nous défendons des intérêts communs, notamment la défense du droit de propriété, du libéralisme des entreprises sur les sujets immobiliers, donc les propriétaires, copropriétaires, etc. Donc régulièrement, et encore la semaine dernière, nous avons fait des communiqués de presse communs, on se voit régulièrement dans les commission consultative, on est on travaille en bonne, je veux dire, intelligence et coordination, je trouve, c'est ce que je dirais de lui.
Et alors, comment est l'homme au travail, vous qui le côtoyez dans son travail?
Je le côtoie, mais surtout, je le vois partout, il est dehors tout le temps, partout, dans les journaux, dans la télé, très pertinent, très percutant, et un exemple pour la jeunesse. Il arrive avec son casque de scooter, il l'enlève, il met sa cuirasse de défense des copropriétés, de la propriété tout court. On,
On admire, moi j'admire un peu l'homme, on a envie de bosser avec des mecs comme ça qui sont quand même rares. Et moi j'ai plaisir en fait à pouvoir travailler en intelligence avec des gens comme Pierre.
Pierre est en plateau avec nous. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?
Surtout me réjouir de savoir qu'il est à vos côtés sur le plateau de Radio Limo. Et en bon champenois, je suis très content qu'il ait traversé cette période de gel et dire que ce froid du mois dernier n'est évidemment pas quelque chose qui arrêtera un Pierre qui ne gèle pas sur pied.
Très bon.
On parlait excellent. D'un homme engagé, il dit que vous mettez votre cuirasse, on est vraiment là-dedans. Hein.
Je suis le chevalier Bayard. Non, mais j'aime beaucoup Géraud et il est très gentil de dire tout cela de moi. Je pourrais dire la même chose de lui. Il est aussi évidemment très doué. C'est lui qui m'a ouvert beaucoup de clés, qui m'a donné beaucoup de clés plutôt quand je suis arrivé dans ce monde associatif syndical de l'immobilier. Il a tout de suite été dans le partage des informations et c'est pour ça qu'il y a une fluidité, je pense, aujourd'hui entre nous avec l'UNIS et d'ailleurs avec l'AFNAIM maintenant ça se développe aussi de manière importante, on discute beaucoup. Donc voilà, Géraud c'est quelqu'un d'accueillant, c'est quelqu'un de très gentil et quelqu'un de très carré dans ce qu'il fait, c'est un vrai juriste dans le bon sens du terme. Et puis il a un petit grain de folie qui me fait beaucoup rire et qui nous permet de se déstresser, de se dérider parfois pendant des réunions où effectivement on négocie des choses importantes dont les répercussions sont importantes pour le monde de l'immobilier en général. Et donc c'est agréable d'avoir des gens qui ne se prennent pas toujours au sérieux et qui peuvent un peu porter en dérision certaines situations.
Alors il disait que vous n'avez pas gelé sur pied, on en a la preuve ce matin puisque vous êtes avec nous. Non mais une petite question par rapport à ça, parce que la vigne c'est votre environnement, les vignes champenoises. Vous n'êtes jamais dit avec des parents en plus agriculteurs, un jour j'aurai mon lopin de terre et mon carré de vigne ?
Pourquoi pas, mais pas en Champagne, parce que le problème de la Champagne, c'est que c'est très cher. Alors, c'est pas comme la Bourgogne, mais on est sur une moyenne de l'hectare à 1 million d'euros. Alors, sauf si on me donne ce million, je veux bien investir.
Il va falloir jouer au loto, là, oui.
Il y a quelques petites vignes à vendre, hein, c'est vrai, en Champagne, mais pourquoi pas un jour, effectivement, mais en tant qu'investisseur. Je ne sais pas faire du vin, c'est un vrai métier, un métier que fait mon frère, d'ailleurs. Et effectivement, un jour, investir dans ces domaines-là, ou dans la forêt, ou dans le rural, il y a une fédération qui existe, les fédérations des propriétaires ruraux, dont d'ailleurs le vice-président est champenois, Bertrand Trépeau, que je salue. Voilà, c'est un milieu qui intéresse beaucoup. Alors, faut pas le prendre comme la star qui s'achète son petit mât en Provence avec une quinzaine d'hectares. Je crois que Georges Clounet a acheté un peu de choses par là.
Il y a quelques années, oui.
Très bien, s'il investit, c'est super, ça impatrie des capitaux. Mais voilà, pourquoi pas un jour, mais pour le moment...
J'ai une passion, le vin, le champagne...
J'adore le champagne.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on prend l'apéritif en champagne, on a ce gros défaut, c'est qu'on ne propose rien d'autre.
On poursuit avec un dernier témoignage, c'est celui de François-Xavier Duvet, que vous nous avez présenté comme un ami proche.
Très proche, c'est le parrain de mon fils.
C'est le parrain de mon fils, effectivement, là on est vraiment dans l'ami proche. On l'écoute, on revient après.
Bonjour François-Xavier Duet.
Bonjour.
Alors vous êtes un ami proche de Pierre Autus.
Oui, voilà, exactement. On se connaît depuis entre 25 et 30 ans, donc ça fait quelques années maintenant.
Ça remonte. Et du coup, alors il est comment en tant qu'ami, Pierre ?
Eh ben justement parce qu'on se connaît depuis longtemps, je pense pouvoir dire que c'est quelqu'un de fidèle, parce que oui voilà, une amitié qui dure longtemps comme ça, c'est rare. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ces jours-ci, j'entendais à la radio qu'on fête les 20 ans de Loft Story. Et ça m'a rappelé une semaine de vacances qu'on avait fait quand on avait 17 ans, où suite au Loft, on s'était fait un confessionnal et on passait les uns et les autres devant une vidéo, on filmait et le soir, on regardait les confessionnaux et on se marrait bien. Et voilà, donc ça fait partie des nombreux souvenirs que j'ai avec lui.
Donc, grande amitié. Et justement, il est avec nous en plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Bah déjà, je voudrais le remercier pour le restaurant clandestin dans lequel il m'a emmené la semaine dernière. C'était vraiment très bon. Non, c'est bien. Non. Bien sûr, je rigole, c'est une blague. Non, mais justement, on fait pas mal de déjeuner en temps normal. Et comme là, le temps normal, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu lieu, lui dire que ça me manque, ces déjeuners qu'on fait quand on se retrouve à Paris. Voilà, j'ai hâte que les terrasses et les restaurants rouvrent pour pouvoir reprendre cette bonne habitude.
Très drôle, François-Xavier.
C'est pour ça qu'on a mis depuis 30 ans.
Ça donne quoi, Pierre Otus, dans le confessionnal du Love Story ?
Eh ben, figurez-vous qu'à l'époque, j'imitais justement Jacques Chirac. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait marrer. Et quand j'ai mué au collège, ma voix c'est devenu assez grave. Mmh. Et ça me permet d'imiter Jacques Chirac. Et donc, ça faisait marrer tous mes copains. Donc, on rigolait bien dans son pays basque d'origine, familial, de François-Xavier. On a passé des très, très beaux moments et pas qu'aux fêtes de Bayonne.
Ah oui, parce que les fêtes de Bayonne, c'est réputé quand même pour... on n'en sort pas... on en sort vivant, mais bon, un peu...
On n'en sort pas toujours grandi.
Oui, pas toujours grandi, voilà, oui. Vaut mieux pas prendre la photo après.
Non, c'est clair.
Hein? Alors, François-Xavier, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Nous, bah, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi avec mon épouse comme parrain pour notre deuxième. c'est quelqu'un qui... C'est un homme, un intellectuel du bâtiment, si je puis dire. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui a fait une école de commerce, qui a fait Sciences Po. Et puis, un jour, il s'est dit, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, il est plombier. Et il est dans le bâtiment et il développe sa petite entreprise tranquillement à Paris. Et il s'est reformé, il est allé travailler tôt le matin avec des professionnels, il a appris le métier et maintenant il est tout corps de métier. Et je lui rappelle qu'il doit venir changer un chauffe-eau à l'UNPI d'ailleurs, courant du mois de mai. Donc j'attends toujours son devis. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il a su se remettre complètement en question et repartir de zéro et se lancer dans une aventure qui franchement a dû faire trembler certains de ses proches en se disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que ce n'était pas forcément ce à quoi il était destiné, en tout cas les études qu'il avait entrepris au départ.
En tous les cas, François-Xavier, si vous nous écoutez, le message est passé. Hein, Pierre Otus attend votre devis avec impatience pour son changement de chauffe-eau. Il nous reste deux petites minutes à passer ensemble. Pierre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour les semaines, pour les mois qui viennent ?
Bah déjà que ce confinement se termine définitivement. Moi, c'est quelque chose que je souhaite pour tout le monde, et pas que d'un point de vue économique, d'un point de vue moral, de liberté, de capacité à se voir et à créer. Et puis, peut-être d'ici la prochaine présidentielle, que la question de la propriété privée soit prise à bras-le-corps par nos représentants publics, nos hommes politiques, et que ce soit l'un des thèmes de la prochaine présidentielle. On a été un peu le parent pauvre. Alors, au moins, ça a eu le mérite de ne pas faire l'échec, pour moi, de la loi Allure. Mais c'est vrai que ça nous a permis... Enfin, ce serait bien qu'un des candidats et le futur président de la République, quel qu'il soit, considère davantage ce monde de l'immobilier comme étant quand même productif, ayant des répercussions importantes et permettant aux entrepreneurs, aux entreprises d'embaucher, d'avoir des salariés.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Emmanuel Macron n'a pas été un bon président, n'a pas été le président de l'immobilier ?
C'est pas quelque chose qui, enfin, de ce que je comprends, était d'instinct son sujet. C'est-à-dire que lui ne s'est pas du tout intéressé à ce sujet. Il a commencé le quinquennat en disant que les propriétaires et l'immobilier, c'était de la rente. Bon, il s'est un peu frotté à nous parce qu'on avait fait une pétition. Je me souviens d'un appel de son porte-parole de campagne en me disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» et tout. On leur a dit « mais on vous interpelle, on vous tâte pas dessus, on vous interpelle parce que vous partez du mauvais pied ». On a heureusement eu un formidable, il faut le souligner, ministre du logement qui n'est pas arrivé tout de suite parce qu'au départ, il n'y avait pas de ministère du logement. Il ne faut quand même pas oublier.
De Normandie.
Donc, Julien de Normandie, que je salue, a été... un bon ministre qui s'était dit qu'il ne donnerait pas de nom.
Qui a laissé sa trace avec le dispositif.
Oui, il ne voulait pas au départ parce qu'il trouvait ça un peu bêta, entre guillemets, dire bon, donner un nom à un dispositif à chaque fois qu'il y a un ministre du logement. Mais finalement, il l'a fait. Mais voilà, il a amélioré un dispositif existant qui se déploie au fur et à mesure sur le territoire. Effectivement, il y a quelque chose, je pense, à travailler sur la structuration globale du marché de l'immobilier, de l'investissement, la taille de l'investisseur moyen. Est-ce qu'il ne faut pas sortir de cette idée que chaque petit porteur puisse avoir son projet immobilier et acheter un ou deux lots ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des opérateurs un peu plus gros, sans être des investisseurs, les zinzins, institutionnels, des gens qui auraient 20, 50, 60 lots ? Ça résoudrait un certain nombre de problématiques liées aux impayés, à la rénovation, à la capacité d'investissement. investir et de ce fameux statut de bailleur privé favorable.
Vous entendez les premières notes d'Elvis, votre choix musical, Jailhouse, c'est pour nous quitter. Merci beaucoup Pierre Rotus.
Merci à vous
d'avoir
pour votre
été
accueil.
Avec nous ce matin. On était ravis. Christophe, merci d'avoir été à mes côtés pour cette matinale. Ouais. On se retrouve très bientôt. Qu'est-ce qui vient ? Eh bien, il vient à l'eau Radio Imo à partir de 9h jusqu'à 9h30 dans vos autres rendez-vous de la journée. La semaine copro de Gilles Frémont, ce sera à 11h. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro du Mac de l'Imo où nous recevrons Régis Comartin. Il est directeur immobilier d'M Capital. On se retrouve avec lui la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end à l'écoute de Radio Imo.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.